Suivez le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de la première édition du Salon de la biodiversité et du génie climatique, du génie écologique qui se déroule conjointement au Salon des maires à la porte de Versailles. Et pour cette première émission réalisée en partenariat avec les ministères des Territoires, de l'écologie et du logement, nous allons évoquer pendant cette heure la contribution des collectivités rurales aux objectifs de la transition écologique. Reconnaître et rémunérer les services environnementaux rendus par les communes rurales dont le territoire est couvert par une part significative d'aires protégées, c'est l'objectif de cette réforme conduite en 2024. Quelle est son ambition en termes de réciprocité territoriale et de solidarité écologique? Quel est son caractère incitatif? Et comment les collectivités s'engagent pour la biodiversité via les aires protégées et zones de protection forte? Et pour répondre donc à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pierre-Édouard Guilin. Vous êtes adjoint à la directrice eau et biodiversité à la DGALN, Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature pour le pôle ministériel des territoires, de l'écologie et du logement. Nicolas Schmitt, maire de Villiers-le-Duc, en Côte d'Or, et vous êtes également président du conseil d'administration du Parc national de forêt. Michel Delmas, vous êtes président de la conférence des aires protégées et vice-président des réserves naturelles de France. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, et vous êtes également sénateur de la Moselle. Bonjour à tous les quatre et bienvenue dans cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions pendant l'émission. Nos invités du jour y répondront dans la dernière partie de l'émission avec l'appui d'Hélène Parmentier, que je salue, et qui est chargée de mission mobilisation des territoires à la DGALN. À tout à l'heure, Hélène. Et donc, nous allons commencer avec vous, Pierre-Édouard Guilin, par nous rappeler à nos éditeurs ce qu'on entend par services environnementaux et services écosystémiques.
Bonjour à tous. Effectivement, ça peut être une approche un peu difficile, un peu sémantique, un peu particulière, mais c'est deux sujets un peu importants parce que, en fait, c'est la place de l'homme qui est dans ces deux définitions. Les services écosystémiques, c'est ce que produit la nature, c'est ce qu'elle génère pour elle-même, par elle-même, par ses interactions entre les espèces qui la composent, entre les milieux, et qui donc fournissent des services qu'on a classés habituellement en quatre catégories, les ressources qui sont générées par les écosystèmes, donc c'est tout ce qui va nous fournir de la matière, du bois, de l'énergie, etc., de l'alimentation aussi. Les services qui sont nous aident dans le cadre du changement climatique, parce que ben voilà, ils vont faire un stock de carbone, c'est l'exemple classique de la forêt, mais qui nous rendent aussi des services sur la santé, sur la prévention des risques. Ceux qui participent au cycle écologique, notamment la pollinisation, qui est un élément indispensable à notre agriculture, le recyclage des nutriments aussi, la nature ne fait pas de déchets, c'est une de ses grandes caractéristiques, et puis bah, tout ce qui est récréatif, ce qui nous détend et autres. Ça, c'est ce que la nature produit par elle-même, par ses interactions. À l'inverse, en complément, on a les services environnementaux, c'est-à-dire les services sur lesquels un acteur, une collectivité, par exemple, parce que nous sommes des maires des collectivités, par son action, va générer et qui est profitable à l'environnement. Et donc, à travers la dotation qui nous occupe aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, de valoriser, au titre d'un principe qui est assez fort dans le Code de l'environnement, c'est le principe de solidarité écologique.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de la réforme dédiée à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales?
En fait, on a voulu sortir d'une approche de la biodiversité, c'est une contrainte. Et on a voulu valoriser le fait que pour un certain nombre d'acteurs qui, par leur nature même d'espace rural, hein, très clairement, produisent qui produisent des services environnementaux pour d'autres. C'est pour ça que je parlais de principe de solidarité écologique. Et on se dit, ben voilà, il faut qu'on donne une reconnaissance, une valorisation à ces services qui sont rendus. On le fait par une approche qui est les aires protégées, en ayant une approche qui va depuis les aires protégées, on va dire, classiques, jusqu'aux zones les plus exigeantes qui sont les zones de protection forte. Et donc, on va prendre en compte, on va valoriser, on va reconnaître les externalités positives de ces territoires ruraux à travers cette dotation, c'est-à-dire le fait d'attribuer une dotation de l'État à ces communes qui accueillent des aires protégées sur leur territoire en fonction de critères sur lesquels on peut revenir.
Alors justement, quels sont brièvement les critères d'attribution, Pierre-Edouard ?
Alors, on a fait une approche peut-être réductrice, hein, mais on se dit, ben voilà, la majeure partie des questions de biodiversité, en tout cas, elle se joue dans les territoires ruraux, parce que c'est là où, entre guillemets, il y a souvent moins d'artificialisation. Et donc, on a ciblé d'abord les communes qui sont rurales. Donc, il y a une échelle qui est élaborée par la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, et qui permet de savoir si vous êtes une commune plus ou moins dense et donc plus ou moins rurale. Ensuite, on a fait des critères sur l'importance des aires protégées à l'intérieur de la commune. Est-ce qu'elle représente une part importante ? Est-ce qu'elle en surface ou en proportion ? On a essayé de trouver des critères. Alors, c'est toujours difficile hein, d'être juste dans l'approche, mais voilà, on a travaillé surface ou proportion. Et ensuite, sur le type de valorisation de l'aire protégée, soit c'est une aire protégée classique, soit elle va un peu plus loin en termes de conservation des enjeux écologiques, c'est une zone de protection forte, et là, on valorise plus le fait d'accueillir sur son territoire des zones de protection forte, et donc on module l'attribution de la dotation suivant ces critères.
Michael Weber, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, sénateur de la Moselle. Quels sont les retours d'expérience sur la base des années précédentes de l'utilisation de cette dotation et quelles sont les perspectives ouvertes par cette dotation dont le montant progresse fortement, hein, c'est ça ? Plus qu'un doublement 2024.
Oui, tout à fait. Je pense que d'abord, il faut saluer que le montant a largement augmenté, qu'il a évolué sur les trois dernières années et que les contours de la dotation ont évolué. Je pense que d'ailleurs, avant de dire comment est-ce que cela a été utilisé, il faut rappeler l'effet exemplaire et levier que cela suscite chez les maires en particulier, dans les communes. Et je veux rendre à César ce qui appartient à César, et notamment à Joël Giraud, puisque je rappelle que cette dotation, elle est née du constat qui vient d'être présenté, que trop souvent, la biodiversité, finalement, se soldait par des pertes de recettes pour les collectivités. Je rappelle qu'il y avait la question du foncier non bâti, non compensé, et que bien, quand on a une zone Natura 2000, une réserve naturelle, une gestion différenciée d'un espace, eh bien, on peut considérer qu'il y a une perte de recettes. Et de dire qu'on reconnaît l'engagement de ces collectivités pour que justement on crée une dynamique, qui soit une dynamique, une spirale plutôt positive de protection des espaces, des milieux, de l'eau, de la forêt, je crois que c'est extrêmement exemplaire. Et donc, les communes ont bien compris. Et le message qui a été passé par les parcs naturels régionaux a été en permanence celui-ci, c'était de dire qu'il faut que cette dotation contribue à encore accélérer le mouvement, accélérer la connaissance, et je pense en particulier aux atlas pour la biodiversité communale que l'on a déployé très largement sur l'ensemble de ces communes, et puis sur d'autres dispositifs, par exemple des espaces naturels sensibles qui, par la volonté des communes, eh bien, se sont constitués, par l'extension parfois de zones Natura 2000, par des dispositifs différenciés, mais qui à chaque fois, parfois des choses très simples, mais qui à chaque fois permet à la commune de contribuer effectivement à cette tâche, à ce projet collectif que de protéger la biodiversité. Je crois que chaque commune est rentrée dans ces dispositifs avec volontarisme, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire qui change le prisme. Et c'est un débat plutôt général, c'est-à-dire que les espaces ruraux ne sont pas simplement des espaces finalement où il y a beaucoup de naturalité, ce sont des espaces aujourd'hui engagés et par lesquels je crois que les défis immenses que l'on a en matière de biodiversité, eh bien, passeront, en tout cas les solutions passeront par ces communes et par la volonté que ces communes ont de contribuer à cet effort.
Je me tourne vers vous, Michel Delmas. Vous êtes président de la Conférence des aires protégées de l'Office français de la biodiversité. Même question, quel retour vous faites-vous de cette dotation ?
Je vais donner un petit exemple en Savoie, dans le parc des Bauges d'ailleurs, hein, où effectivement il y a des ABC, hein, donc des communes qui volontairement hein, se jettent dans cet exercice d'un ABC, vous entendez ? Oui. Mais parmi ces communes, il y en a une, je vais citer son nom, Saint-François-de-Sales, qui a une petite tourbière qui est classée en arrêté de biotope depuis pas mal d'années. Bah, la maire de cette commune que j'ai vue récemment a décidé que sa dotation biodiversité, elle allait l'investir dans des acquisitions de parcelles dans cette tourbière pour pouvoir garantir son entretien et surtout son hydratation pérenne. Voilà un exemple précis hein, d'une véritable appropriation par la commune de cette dotation. Une véritable fierté d'avoir cette tourbière dans un ensemble de forestiers et d'investir effectivement cette dotation dans la biodiversité de sa commune, voilà, pour un motif d'intérêt général.
Donc on l'entend dans vos propos, hein, il s'agit de proposer d'appréhender cette biodiversité comme un atout et un levier pour son projet de territoire.
Absolument, c'est ça. Effectivement, c'est ce qui se joue dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles qui sont des outils de protection forte comme les parcs nationaux. Mais effectivement, aujourd'hui, dans tous ces outils de zones de protection forte, je vais rester là-dessus, il y a une véritable fierté des communes, des habitants maintenant, même s'il y a toujours des difficultés, il faut pas le nier, hein, effectivement, d'avoir un territoire exceptionnel sur le plan à la fois de la biodiversité et des services environnementaux qui rend, hein, et on pourra parler dans les PNR, des services rendus par les communes de PNR par rapport aux urbains qui sont autour, hein, sur lesquels il y a déjà une solidarité instituée par les parcs régionaux depuis très longtemps.
Alors justement, Michael Weber, est-ce que les parcs naturels sont présentés comme des territoires un peu expérimentateurs de la transition écologique ? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ?
Les parcs naturels régionaux, de par la loi, doivent être des territoires d'innovation et d'expérimentation. Et au-delà de l'expérimentation, ce qui est important pour nous, c'est qu'effectivement, on parvient à transmettre à l'ensemble d'un territoire ce qui réussit. Les ABC des Atlas pour la biodiversité communale sont un excellent exemple, puisqu'ils ont été inventés, imaginés dans le parc naturel régional de Lorraine, et aujourd'hui cofinancés parfois par les agences de l'eau, par l'OFB, qui n'est pas très loin d'ici, et par d'autres organismes, parce qu'on considère que vraiment, et moi j'y crois beaucoup, c'est aussi le partage de la connaissance. Nos concitoyens veulent être eux-mêmes acteurs sur nos territoires. Ils veulent être acteurs de cet immense défi, encore une fois. Et donc, partager la connaissance, permettre à ce que des associations dans les communes contribuent à, effectivement, non seulement connaître la situation en termes de biodiversité du milieu, mais aussi de trouver des solutions, je crois que c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est aussi un élément extrêmement important avec cette dotation aménitière rurale, c'est vraiment l'effet levier. C'est-à-dire que dans les parcs naturels régionaux, il faut bien se dire que ce que l'on met pour un euro, eh bien, ce sont à peu près entre 10 et 15 euros derrière qui sont amenés sur ce territoire comme un investissement, non pas dans de la pierre, dans de l'artificialisation, mais de l'investissement pour la nature. Et c'est une réussite parce que quand on regarde un petit peu le bilan, on a fait le bilan à l'occasion des 50 ans des parcs naturels régionaux, je rappelle qu'il date de 1967, on a constaté que notamment les espèces qui étaient des espèces menacées dans l'ensemble de nos territoires protégés se portent plutôt mieux. Et ça doit nous interroger si l'homme qui a détruit les milieux peut aujourd'hui faire en sorte que les espèces menacées, faunistiques et floristiques se portent plutôt mieux. Ça veut aussi dire que pour la nature ordinaire, on doit être une partie de la solution. Et cette partie de la solution, elle doit se constituer avec des moyens financiers. Et cette dotation est une reconnaissance, une fierté, mais c'est aussi des moyens.
Venons-en avec vous, Nicolas Schmitt. Vous êtes maire de la commune de Villiers-le-Duc, commune très peu dense en Côte d'Or, qui est située au cœur du parc national de Forêt, dont vous êtes également le président du conseil d'administration. Alors, on va peut-être rappeler aux auditeurs que le parc national de Forêt est le plus récent des 11 parcs nationaux français, situé à cheval entre la Côte d'Or, la Bourgogne et la Champagne, la Haute-Marne. Et vous venez de fêter les 5 ans de ce parc, donc joyeux anniversaire au parc national de Forêt. Et venons-en donc un petit peu aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés au moment de la création de ce parc national, du fait de l'absence de visibilité sur le montant de la dotation des communes sur son territoire.
Effectivement, le GIP a travaillé pendant 10 ans sur ce projet de parc. Et pour faire comprendre aux communes qu'il y avait un atout dans la biodiversité, qu'ils allaient toucher quelque chose, on appelait ça d'abord la dotation biodiversité, qui a été transformée après. Mais les communes, vous savez, on est tous pareils, on croit que ce qu'on voit. Et alors on ne va pas dire que beaucoup de communes ont adhéré parce qu'elles avaient une dotation, mais on va quand même le dire aussi, ça, certaines communes l'ont fait. Mais le souci qu'on a eu, surtout, c'était comment le chiffrer, comment leur annoncer une somme. Et là, c'était un gros problème qui a été mis en place parce qu'il y a des gens qui font des calculs. La première année s'est passée et quand les gens ont reçu leur dotation, ça a posé un gros problème. Parce que bon, là, les chiffres n'étaient pas là, quoi. Des communes rurales comme les miennes, on n'avait quasiment rien. Quand je dis quasiment rien, c'est pas vrai, mais on avait très, très peu. Des communes n'avaient rien du tout et des communes beaucoup plus peuplées avaient beaucoup. Et ça faisait vraiment une grosse différence et c'était pas logique. Et on a essayé justement, donc on a fait remonter ces informations-là. Donc je remercie les élus, parce que nos sénateurs ont travaillé, nos députés ont travaillé, tout le monde s'y est mis, a compris. Mais le calcul était tellement compliqué que ça a mis un an pour la première dotation, la nouvelle dotation, et encore un an pour avoir la nouvelle maintenant dotation qui nous est arrivée et qui est très confortable pour certains.
Alors, parlons de votre commune, Villiers-le-Duc, qui qui est très rurale et qui est la plus grande en superficie du parc. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu les enjeux, les défis auxquels vous êtes confrontés sur cette commune?
Juste une précision. Ouais, notre dotation nous permet de faire plein de choses, je veux dire, en plus.
C'est-à-dire
Notre commune fait 8444 hectares exactement, dont 7000 hectares de forêt domaniale, et le reste c'est de la forêt communale et notre village, parce que les villages ne sont pas en cœur de parc. Donc ça veut dire que 98% de notre commune est en cœur de parc. Personnellement, cœur de parc ou pas cœur de parc, ça ne nous a rien changé, nous, au niveau des habitants, au niveau des communes, sauf 2-3 interventions, 2-3 réglementations en plus par rapport aux bois domaniaux et un peu communaux. Mais franchement, la chasse n'a pas changé, rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est quand même la dotation. Un chiffre quand même qui est intéressant pour nous, donc je vais donner mon cas à moi. Nous percevions donc 15 000 et quelques euros de dotation avant la nouvelle loi. Donc je remercie encore les élus. Maintenant, nous sommes à 73 000 euros. Donc vous voyez, imaginez, c'est pour un budget comme ma commune qui est de 120 000, 130 000 euros de fonctionnement, c'est quand même appréciable. Donc voilà, il y a des choses. Alors je vais être franc, je ne vais pas tout mettre dans la biodiversité, parce que on a tellement de verdure chez nous, à un moment on peut conserver les choses, on peut améliorer les choses, mais les travaux seront faits aussi. Il y aurait les travaux de fait. Or,
vous pouvez nous donner quelques exemples concrets peut-être?
Alors je vais vous dire, une partie de la biodiversité nous sert, alors c'est pas bien de le dire, mais nous le sert à combler un budget déficit de l'eau et de l'assainissement. Mais bon, heureusement qu'on a ça, parce que on aurait un syndicat qui serait vraiment en perte. Bon, c'est sûr que c'est pas tellement normal budgétairement, mais quand on est vraiment coincé d'un côté, même l'État nous donne, laisse fermer un peu les yeux, puis nous donne un coup de main, allez-y, donnez un coup de main, et puis après on verra. Voilà.
Quelle est votre perception de la dotation aménité rurale en tant que maire d'une commune hyper rurale, très rurale, Nicolas Schmitt?
C'est très important. Alors ça peut nous donner plein de choses. Bon, un développement, se faire connaître. On a aussi la chance, grâce à être adhérent à ce parc, d'avoir une marque Esprit Parc. Donc ça veut dire que tous nos artisans qui le désirent, qui font de l'artisanat, du miel, du tourisme, plein de choses, s'ils veulent adhérer à cette marque Esprit Parc, ils peuvent. Et je vais vous dire, c'est une image, c'est une belle image pour nous communes et le développement, parce que bon, on a beau être petit, mais ça ne nous empêche pas de nous développer, de faire connaître. Le tourisme chez nous, c'est le tourisme vert, mais il y a des gens quand même qui s'intéressent, quoi. Ils veulent. J'assure que moi, je serais content ce soir de repartir de Paris et de retrouver mon calme. c'est vachement important, quoi.
Michel Delmas, d'une manière générale, comment se traduit concrètement le fait d'avoir un territoire en zone de protection forte?
Au début, pour les collectivités qui ont une zone de protection forte comme une réserve naturelle, les premières années, ça dépend des conditions de la naissance de la réserve naturelle, ça peut être vécu effectivement comme une grosse contrainte. Mais rapidement, une réserve naturelle est dotée d'un gestionnaire avec un plan de gestion. Si le gestionnaire fait bien son travail, c'est la majorité des cas, on arrive à des collectivités qui effectivement arrivent sur une véritable fierté d'avoir une réserve naturelle sur leur territoire. Donc une fierté parce que ils préservent une biodiversité exceptionnelle, voilà, certains types d'espèces ou d'habitats. Hein. En même temps, de plus en plus, ils sont conscients que cet espace, il amène des services environnementaux. Donc on a parlé de l'eau, par exemple, mais quand on prend beaucoup de zones humides, tourbières, qui sont classées en zone de protection forte, c'est un véritable atout pour le grand cycle de l'eau, à la fois pour la qualité de l'eau, mais aussi eu égard au réchauffement climatique qui arrive en ce moment. Et puis après, c'est aussi un atout économique. Voilà, les collectivités le mettre dans le cadre de leur développement, hein, à l'échelle de la commune, mais à une échelle plus large, c'est aussi un atout économique, avec le tourisme vert dont on a parlé, la découverte de patrimoine naturel, avec souvent pour les réserves naturelles des investissements pour mieux accueillir le public et les guider vers la réserve naturelle, la découvrir. Et ça devient après, quand c'est bien développé, un atout économique avec derrière des activités de restauration, d'hôtellerie, d'accompagnement qui se développent.
Michael Weber, il y a des communes qui sont engagées dans un contrat de réciprocité territoriale entre communes rurales et villes ou métropoles. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, si vous voulez, dans les parcs naturels régionaux, on considère qu'on est dans le contrat entre le territoire, les acteurs du territoire et les objectifs de protection de l'environnement. C'est un peu la différence qu'il peut y avoir entre les zones de protection fortes et plutôt les zones de protection sous contrat, sous forme de contrat. Et donc, eh bien, on considère que l'apport des territoires classés PNR en matière d'agriculture, je pense en particulier à l'agriculture bio, en termes de production d'énergie, toutes les énergies renouvelables, peu ou prou, sont produites sur des territoires ruraux et en particulier sur des parcs naturels régionaux, l'éolien, le photovoltaïque et peut-être demain d'autres types d'énergie. Eh bien, cette mobilisation contribue finalement aussi aux territoires urbanisés. Et donc, il s'agit de sortir de cette espèce d'opposition stérile que l'on constate beaucoup entre les territoires de ville, les métropoles et les territoires ruraux. Et je crois que de ce point de vue-là aussi, on considère qu'on est dans un espace de solidarité. Vous savez, aujourd'hui, on est souvent opposé les deux. Je pense que c'est assez mortifère. Ça se ressent, y compris pour nous qui sommes élus dans la carte électorale, je dirais. Eh bien, je pense que c'est important que de dire il n'y a pas de fatalisme. Il faut que chacun reconnaisse les contraintes les uns envers les autres. En réalité, l'espace rural n'est pas un espace à consommer en termes d'espace de territoire à consommer par la ville. Et il faut que le territoire rural reconnaisse aussi que la ville est là, c'est contrainte de centralité. Et donc, cette réciprocité permet de reconnaître cela et, en quelque sorte, de mettre des moyens financiers à la clé. Parce que ce qui est important, vous voyez, quand on dit on investit pour la biodiversité, Michel a très justement dit, on peut évidemment investir pour recréer de la continuité écologique. On le fait sur les cours d'eau, on le fait sur des espaces forestiers, etc. Mais on peut aussi dire que ça sert, en quelque sorte, à compenser une perte de recettes. Mon collègue qui est sur une commune forestière, eh bien, si demain il veut mettre une réserve biologique intégrale ou un espace avec des îlots de sénescence où on protège la forêt, eh bien, ça a un coût, c'est une perte de recettes pour la collectivité. Et donc cette aménité rurale, par exemple, ces contrats de réciprocité peut-être, permettent de, en quelque sorte, mettre un montant en face de cet effort qui a été consenti par la collectivité. Et ça, c'est vraiment un changement. Je pense qu'on ne mesure pas le changement de paradigme, en tout cas de philosophie que cela suppose, puisque en quelque sorte, avec en plus un montant qui a grandi, et j'espère que dans les années à venir, cette reconnaissance sera plus forte pour les territoires comme les nôtres qui sont sous protection, plus ou moins forte, mais peut-être aussi plus largement pour la ruralité, parce que je sais que nos cousins de l'Association des maires ruraux de France s'interrogent aussi quant à leur place et à leur contribution peut-être moins exigeante en matière d'environnement sur cette thématique.
Pierre-Edouard Guilin, quels sont les outils pour accompagner les collectivités dans le domaine des services environnementaux ?
Alors, les outils qu'on met en place, on les met en place avec l'appui notamment de l'Office français pour la biodiversité. On a des dispositifs d'engagement des communes. On l'a cité tout à l'heure avec les atlas de la biodiversité communale, qui sont des outils qui permettent d'accroître la connaissance et puis aussi de définir des enjeux et de savoir après comment on va s'en saisir. Dans les accompagnements, nous, on est vraiment sur la question des outils, puisqu'on a vu les questions d'accompagnement financier, mais on n'oublie pas aussi qu'on a mis en place le fonds vert ou d'autres outils d'accompagnement financier des collectivités. Donc, je le redis, des actions de connaissance, et puis, une fois qu'on a ces actions de connaissance, et bien, l'engagement dans différentes opérations, ça peut être les aires protégées, on l'a cité. Les communes sont aussi très impliquées dans Natura 2000. Quand elles sont sur des sites Natura 2000, c'est souvent elles qui sont animatrices du document d'objectif, et ça, c'est un élément important. Elles peuvent aussi s'impliquer dans des opérations de maîtrise d'ouvrage pour leur propre foncier. On a parlé de communes forestières, c'est aussi un élément important. Quand on est propriétaire foncier d'une commune, c'est de gérer différemment, avec un autre angle, une autre approche, son patrimoine foncier. Et puis, c'est aussi accompagner dans leur transition les acteurs du territoire, soit en s'investissant sur les circuits d'alimentation pour les cantines notamment, ou d'autres aspects qui font que on a un cercle vertueux qui s'installe sur le territoire avec de l'accompagnement d'acteurs, parce qu'on crée des débouchés, on crée de la valorisation, on permet à des acteurs de s'installer et d'avoir d'autres pratiques qui sont plus vertueuses pour la biodiversité.
Très bien, merci beaucoup pour ces échanges très riches. Nous allons à présent passer aux questions des auditeurs et nous retrouvons Hélène. Alors Hélène, est-ce que nous avons reçu des questions d'auditeurs ?
Oui Jean, nous avons plusieurs questions de nos auditeurs dont je vous propose de partager les principales. D'abord une première question, est-ce que la dotation ne pourrait pas devenir une subvention automatique ? Alors qui souhaite répondre ?
Pourquoi pas
mais...
Écoutez, le sénateur que je suis pourrait avoir tendance à dire que ça serait facilement une subvention automatique et je suis persuadé que les maires seraient ravis de l'entendre. Mais je pense que, en tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a quelque chose, enfin, qu'il y a, même si ce n'est pas forcément dit, une notion d'investissement de cette somme-là pour accélérer le mouvement. Donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et il faut accompagner. Vous savez, nous, dans les parcs naturels régionaux, les comités syndicaux se sont réunis, chacun, en prenant en compte sa spécificité. On a des espaces de montagne, de littoral, de plutôt agricole, de zones humides, etc. Et chacun s'est demandé comment est-ce qu'il pouvait faire en sorte pour que cette manne financière, en quelque sorte, contribue aux défis collectifs. Et je pense que c'est plutôt sain. Donc, restons sur ce principe-là. Et si déjà on pouvait, en tout cas, combiner nos forces pour maintenir cette dotation avec le projet de loi de finances qui est en discussion actuellement et peut-être à le voir grossir dans les années à venir, je l'espère. En tout cas, moi, c'est aussi le combat que je mènerai. Ce sera une bonne chose.
Merci. Alors, je poursuis avec une deuxième question. Est-ce que les critères de surface pourront être réétudiés pour l'attribution de la dotation 2025 ? Certaines aires protégées sont de surface très faible, mais d'intérêt majeur.
Nicolas Schmitt. Pierre-Emmanuel.
La question des critères, c'est toujours un sujet difficile. Ça a été rappelé, on n'est pas notre coup d'essai, entre guillemets, sur les critères de cette dotation. On essaye de voir, on a inclus, le premier travail qu'on a fait, c'était d'inclure toutes les aires protégées et de séparer, entre guillemets, les aires protégées et les zones de protection forte, mais de reconnaître toutes les zones de protection forte. Il nous manquait, par exemple, de mémoire, les réserves biologiques forestières, donc on les a intégrées, donc on ajuste. Est-ce qu'il faut compléter par des surfaces ? Je pense qu'il faut déjà d'abord voir ce que ça donne année par année, regarder. On a montré qu'on était capable de s'adapter. Je pense que c'était parce qu'on avait identifié des vraies difficultés, ce qu'a rappelé M. le maire sur les écarts, la question de la densité rurale qui fait aussi beaucoup de débats, la question du type d'air, la question de la surface. Bon, il faut trouver des règles qui soient avant tout justes et lisibles. Et donc, il ne faut pas hésiter à se reposer la question au fur et à mesure de ce qu'on constate et des effets de bord potentiels qu'on aurait constatés ou de communes qui seraient manifestement lésées dans ce principe d'équité qu'on vise évidemment dans le système.
Alors oui, peut-être juste sur les critères. Moi, j'attire l'avis vigilance quand même, parce que les critères, vous savez, quand le gâteau est le même, les critères, on peut les faire évoluer, mais quand le gâteau, en quelque sorte, il grandit. Parce que quand vous avez le même gâteau et que vous avez d'autres critères, ça veut dire que les parts, eh bien, vont changer. Et un maire, quand il reçoit plus de dotation, il sera toujours content. Quand il en aura moins, il sera toujours inquiet. Donc, en quelque sorte, moi, je suis assez méfiant sur la question des critères. Je pense qu'il y a un critère qui est à faire évoluer pour l'instant. Et c'est aussi la conséquence du changement de critère qu'on a eu entre 2023 et 2024. C'est de faire en sorte que chaque commune qui se trouve dans un espace qui mériterait d'avoir une dotation ait une dotation. Même si c'est des communes un peu plus importantes, parce qu'en quelque sorte, il y a le critère population qui est aujourd'hui interrogé. Même si c'est une commune qui est importante et que c'est une participation symbolique, mais pour qu'il n'y ait aucune commune qui se sente exclue. Il y a un petit débat actuellement sur les 46 communes qui en bénéficient, qui n'en bénéficient plus. Je pense que c'est un élément qu'on doit faire évoluer. Et pour le reste, on ne peut pas être dans une situation totalement stable en permanence, mais je pense que c'est bon en tout cas de regarder sereinement quelles sont les répercussions de ces différents critères, de ne pas réagir finalement par à-coup, parce que c'est ce que détestent les élus locaux, que de voir des changements en permanence et de ne pas avoir de visibilité sur les années à venir.
Michel Schmitt, vous voulez réagir ?
Je confirme ce que dit Michael Weber, c'est-à-dire qu'on a des communes support de réserve naturelle qui avaient touché une première dotation en 2023 et puis qui aujourd'hui sont à zéro. Voilà. Alors, il faut examiner pourquoi, effectivement, faire en sorte qu'on arrive à éviter ces cas-là et être juste par rapport à ces communes.
Encore une question, Hélène ?
Oui, peut-être une dernière question. Est-ce que le détail des calculs pour chaque commune, et en particulier les types d'aires protégées et les surfaces concernées, sont mis à disposition ?
Pierre-Édouard Guélin ?
Réponse simple et courte, oui. Alors, je vous invite à consulter le site de la Direction Générale des Collectivités Locales, qui est un site dédié aux dotations pour les maires. Et donc, vous retrouverez l'intégralité des données qui sont publiques et accessibles. C'est un principe de base de l'action publique pour connaître la façon dont ça a été calculé et attribué.
Nous allons mettre le site sur le chat de la radio. Merci.
Merci, Hélène pour ces questions. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission consacrée aux aménités rurales. Un grand merci à nos quatre invités et à vous, chers auditeurs, pour avoir suivi donc cette émission en direct de la première édition du Salon de la biodiversité et du génie écologique. Vous pouvez bien sûr retrouver le podcast de l'émission sur le site et l'application de Radio Territoria. Et je vous retrouve quant à moi à 16h pour une émission toujours en direct consacrée au changement climatique et à la biodiversité ou comment favoriser la résilience de la nature pour adapter les territoires. Merci à tous, à tout à l'heure.
Vivez le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.